Bonjour chers auditeurs, auditrices de Fréquence Mistral Manosque, bonjour à tous les lycéens. Aujourd'hui je vais parler de la vie des soldats sur les fronts de 1914 à 1918. Alors c'est une guerre qui commence comme toutes les autres guerres précédemment. C'est une guerre à la fois terrestre et navale, puisque c'est les ordres de mobilisation, nous avons l'armée de terre et l'armée et la marine. Donc la guerre commence selon les plans des états-majors respectifs, par des offensives et des guerres de mouvement. Cette guerre de mouvement dure grosso modo du début de la guerre, le 3 août 1914, à décembre 1915. Alors elles sont marquées par un nombre effroyable de victimes, puisque ce sont des guerres de mouvement qui sont principalement des guerres de fantassins, avec un peu de cavalerie, mais l'artillerie de l'époque et les mitrailleuses que l'on connaissait déjà depuis bien longtemps, font en sorte que quand vous avez des canons qui tirent à 20 coups minutes ou que vous avez des mitrailleuses qui tirent à 800 coups minutes, 300 coups pour la plupart du temps, et que vous avez une cavalerie ou une force de fantassins en face de vous, cette force de fantassins ou de cavalerie ont peu de chances de survie. Ce qui fait que, je le répète, les pertes sont effroyables. Et après la bataille de la Marne et le recul des Allemands, nous avons ce qui s'appelle, et la course à la mer, nous avons ensuite ce qui s'appelle une guerre de position sur le front français.
Bien sûr, les Allemands ont riposté.
Cette guerre de position se caractérise par le creusement de tranchées, la bétonisation de casemates, l'apparition et la diffusion de fils de barbelés, des mines en tout genre, et surtout aussi l'apparition, à partir de septembre 1915, des premiers casques, que ce soit du côté français ou du côté allemand, on commence à protéger le soldat avec des casques. Du côté français, on va aussi le protéger avec une autre tenue. On va abandonner le pantalon rouge Garance et la veste bleue, et on va aborder habiller désormais les soldats avec une veste qu'on appelle bleu horizon, un bleu gris. Donc cette infanterie est donc enterrée dans ces tranchées, et pour renverser le front, il ne reste plus qu'une seule chose. chose, c'est développer l'artillerie. Et c'est véritablement cette guerre de mouvement, un duel d'artillerie avec au centre de ce duel, eh bien, des troupes de soldats qui se protègent comme ils le peuvent. Et cette guerre de l'artillerie, du métal contre l'humain, eh bien, provoque là aussi une série de batailles à partir de 1915 jusqu'à 1918, une série de batailles avec un nombre de victimes assez effroyable. Pensez seulement Verdun, 700 000 victimes entre février 1916 et décembre 1916, suivi de la Somme avec 1 million de soldats qui sont morts entre le 1er juillet 1916 et le 18 novembre 1916. Sur le chemin des Dames, on a 400 000 victimes. À Passchendaele, en 1917, on a aussi 600 000 victimes. Les offensives ne sont pas quotidiennes, mais pour rompre les lignes de défense, il faut mobiliser des hommes, des armements, et donc passer à l'offensive. Ces hommes tiennent le front par tous les temps et sur toutes les altitudes. On ne combat pas seulement en plaine, on combat dans les Vosges, on combat aussi du côté italien contre les Austro-Hongrois dans les hautes montagnes, à 2000 mètres d'altitude. Les armements dans ce type de guerre évoluent avec cette guerre. On a, pour rompre le front, les Allemands utilisent pour la première fois le gaz à Ypres, dans le nord. Ils utilisent aussi une artillerie de plus en plus lourde. De l'autre côté, les Français développent aussi leur artillerie lourde, leur lance-flammes, développent aussi leur gaz. Ils développent aussi le camouflage qui fait son apparition, sa réapparition. Il faut développer contre le gaz, il faut développer des masques. Alors au départ, c'est des masques en tissu. Et puis ensuite, de plus en plus, on va avoir l'apparition de masques en caoutchouc avec des cartouches. Et puis pour rompre ce front, puisque les bombes ça ne suffit pas, on invente des bombes qui explosent en l'air au-dessus cette fois des tranchées, ce que qu'on appelle des shrapnels. Le sol est donc par conséquent lunaire. On envoie 1 million de bombes le premier jour de l'offensive de Verdun. On envoie l'équivalent à 1 million de bombes aussi le premier jour de l'offensive de la Somme. Donc ce sol lunaire, il est sur 800 km de long avec près de 60 km de large de part et d'autre de la première ligne. On a beaucoup parlé des taxis de la Marne pour expliquer la victoire de 1914 sur la Marne. Alors c'est un peu une légende, hein. Certes ils ont été mobilisés, mais bon, les taxis ont pas véritablement transporté un nombre de troupes incalculable. En fait, c'est une guerre aussi du train. Il faut amener des hommes, une multitude d'hommes. 10 millions d'hommes doivent être mobilisés tout de suite sur un front. Il faut qu'ils soient anglais, ils sont australiens, ils sont néo-zélandais, ils sont indiens, ils sont français, ils sont coloniaux, peu importe, il faut les amener. Et donc il faut les amener, il faut pas seulement amener les hommes, il faut aussi amener les munitions, il faut aussi amener le courrier, il faut, parce que ça c'est très important pour le moral, le fait que le soldat reçoive son courrier chez lui, qu'il puisse écrire son courrier pour sa famille. Il faut aussi ramener tout le ravitaillement, le vin, les alcools, les repas, la viande, les viandes, parce que on respecte fortement les interdits religieux des différentes troupes, donc il faut pas faire manger de porc à des troupes musulmanes, qu'elles soient indiennes ou qu'elles soient nord-africaines. Donc il faut faire en sorte que le front résiste. Le char, lui, il apparaît en 1917 seulement. Et faisons bien attention, les chars, ce sont des chars qui sont très lourds, plusieurs centaines de tonnes, pour ce qui est en tout cas des Anglais. Ils sont développés aussi chez les Français avec le char Renault qui est plus petit et plus léger, donc plus maniable. En plus de ça, il a un avantage, c'est qu'il a une tourelle qui tourne, donc ce que ne sont pas les chars anglais. Bon, faisons bien attention, ces chars, ce sont... ce sont des nouveautés. À l'intérieur, ce sont des fours. Et surtout, passé la première sidération des Allemands qui les voient arriver en face d'eux, en fait, il s'avère qu'ils sont assez faciles à éliminer avec des canons. Donc, le reste de la guerre ne se déroule pas que sur Terre, il se déroule aussi dans les mers. Sur les mers, pardon, et les océans, ce sont aussi des théâtres d'opération. Alors, le plus grand théâtre d'opération, c'est bien sûr l'Atlantique, c'est le cas de la mer du Nord, c'est là que se déroule la première et la seule grande, véritable bataille navale du Jutland, entre les forces navales britanniques et allemandes. C'est le cas aussi du débarquement des Anglo-Français dans les Dardanelles, et notamment à Gallipoli, des Australiens et des Néo-Zélandais contre les Ottomans. C'est aussi, et encore, le cas des Allemands avec leurs sous-marins qui coulent les navires alliés dans l'Atlantique et en Méditerranée, et les 340 sous-marins allemands, les U-boats, ont coulé 6000 navires et plus d'une centaine de navires de guerre. Pour la première fois, la guerre se déroule aussi dans les airs. Alors, l'avion est quelque chose de tout à fait neuf, d'accord. Le premier vol, c'est Clément Ader, les frères White en 1905. Donc, quand on arrive en 1914, l'aviation a à peine 10 ans, réellement. Voilà, on a des héros déjà avec Blériot qui a traversé la Manche, et ces avions sont en bois, en tissu pour ce qui concerne les fuselages et le corps, et des petits moteurs qui vont à 100 km/h grand maximum. Donc, et ces avions en bois, eh bien, servent en fait en premier lieu d'observation. Les pilotes au départ sont armés de pistolets, de fusils, voire même de briques. Bien, ils lancent au-dessus des troupes. Le premier bombardement, en fait, c'est un bombardement de petites fléchettes en métal qui le fait notamment des Français qui jettent ça sur les troupes allemandes. Alors vous imaginez les soldats allemands quand ils écoutaient un avion au-dessus d'eux, ils étaient terrifiés parce que ces pilotes français prenaient dans leurs mains une botte de ces fléchettes et puis les lançaient sur les troupes. Et là, sans casque, puisqu'à l'époque ils avaient que des casques en cuir, ça a terrifié les troupes allemandes. C'est par la suite, il y a bien sûr une amélioration puisque les états-majors se disent ah ben tiens, les airs c'est pas mal. Donc les Allemands développent les zeppelins et avec ça ils vont essayer ils bombardent, ils font les premiers bombardements stratégiques. Ce qu'on appelle un bombardement stratégique, c'est un bombardement de ville. Donc ils vont le faire sur Norfolk en 1915. Ils vont le faire plusieurs fois sur Londres en 1916. Enfin, n'exagérons pas la valeur de ces bombardements aériens. C'est encore rien par rapport à ce que l'Europe va connaître pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, dans cette nouvelle guerre en trois dimensions, on va dire, hein, terre, mer, air, eh bien, la force aérienne est marquée par une vie tout autre que celle des soldats sur le front dans les tranchées. C'est une vie en escadrille à 20-30 km. Avec des sigles, avec les as qui côtoient et tutoient leurs mécaniciens, les as qui deviennent des héros. C'est du côté allemand Manfred von Richthofen, le Baron Rouge. Côté français, nous avons un jeune Guynemer ou Funk, qui sont donc les as des as. Les victoires alliées, la victoire alliée est une victoire du nombre d'avions, hein. En 1914, on est à peu près à 500 avions. En 1918, on sera à 24 500 avions. Côté français, la première force aérienne, c'est la force française, bien suivie par la force allemande, bien sûr. L'industrie et la recherche vont donc être mobilisées de part et d'autre pour rompre le front. En fait, il faut rompre le front. Les états-majors se rendent compte que le nombre n'est pas tout. Il faut aussi avoir l'armement qui va avec. Alors, comment les hommes ont-ils pu tenir? C'est la grande question question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est le sens du devoir? Certainement, dans un premier temps, les hommes qui sont partis au front, c'était par sens du devoir. Mais une fois au front, n'y a-t-il pas autre chose de plus? Alors, la vie en zone de guerre est une vie, bien sûr, à part. C'est un monde d'hommes sans femmes. Je vous invite à relire bien les témoignages d'Henri Barbus, de Giono ou d'Éric Maria Remarque du côté allemand. Eh bien, vous avez une vie, la vie du soldat ou jusqu'au commandant, hein, jusqu'à ce rang-là de commandement. Donc, que ce soit le soldat, le sous-officier ou l'officier, tout le monde partage grosso modo la même vie. Tout le monde est dans la boue, tout le monde vit de la même façon. Les troupes métropolitaines ou coloniales partagent les mêmes risques dans les mêmes et avec les mêmes pertes. Il y a eu un fantasme à un moment donné, comme quand on avait envoyé les troupes noires avant les autres. C'est pas vrai. Quand on regarde les chiffres des victimes, nous avons exactement la même proportion de chiffres de victimes, que ce soit des troupes coloniales ou des troupes métropolitaines. La première fracture entre les soldats, c'est une fracture en fait vis-à-vis de l'état-major. L'état-major, ce sont ceux qui sont déjà derrière, ce sont ceux qui dirigent les offensives, qui sont généralement sans succès, ceux qui empêchent les permissions. Voilà, le général Nivelle est considéré comme un boucher après l'échec de Craonne et du Chemin des Dames en 1917. Le général Pétain, lui, doit sa gloire auprès de ses troupes par les mouvements de rotation de tous les régiments ou presque à Verdun et par une meilleure organisation des permissions à l'arrière et de l'ordinaire, c'est-à-dire des repas après l'échec du Chemin des Dames. La deuxième fracture que l'on voit chez dans les soldats vis-à-vis de l'arrière, c'est celle que décrit très bien Éric Maria Remarque dans À l'Ouest rien de nouveau et que l'on retrouve après dans les autres conflits, c'est-à-dire cette incompréhension, cette incapacité du soldat à raconter ce qu'il a vécu quand il rentre en permission. C'est l'indicible de la guerre qui est impossible pour lui de raconter. D'ailleurs, il faudra bien longtemps après la guerre pour que les hommes racontent et osent raconter ensuite, et certains romanciers le feront mieux que d'autres, ce qu'ils ont vécu pendant la guerre 14-18. L'autre ressenti de ces hommes, ce sont ces planqués ou ces profiteurs qui sont aussi dénoncés par les soldats, ceux qu'ils voient notamment quand ils rentrent en permission et qu'ils passent par exemple par des grandes villes à Paris ou à Stuttgart, où ils voient que en fait les choses, il y a des gens qui s'en sortent bien quand même pendant qu'ils sont dans la boue au milieu des rats, des odeurs, des cadavres. Ça, c'est ce qui cause aussi, avec l'échec de Nivelle, la grève des soldats de 1917. On a beaucoup pensé que c'était une conséquence de la révolution russe. Alors c'est vrai que des troupes russes qui étaient en France ont été touchées par la révolution russe et qu'il a fallu les envoyer en Algérie. Parce que là, il y avait un grand risque quand même qu'ils puissent avoir une incidence sur les régiments qui les entouraient. Mais ce qui concerne les Français ou ce qui concerne les Allemands en face, puisqu'en face aussi il y a eu des grèves, des mutineries, ou chez les Anglais aussi, c'est surtout l'ordinaire. Et c'est surtout une amélioration de cet ordinaire-là. Une amélioration de l'alimentation, une alimentation du nombre de rotations, des permissions qui soient plus équilibré et plus juste. Si certains demandent la paix, c'est pas une majorité. Ils demandent sur ce qu'on a appelé les mutins par la suite. Ce qu'ils demandaient, bien sûr, il y en a une partie qui demandait la paix, mais ce qu'ils demandaient surtout, c'était d'avoir des généraux qui soient plus soucieux de la vie de leurs hommes. Ce qu'ils demandaient aussi, c'était un respect de l'arrière par rapport à ce que eux vivaient sur le front. C'est-à-dire que quand ils allaient en permission, ils assistaient à des pièces de cinémas cinématographes, ils allaient au cinématographe avec leur famille et puis ils entendaient des choses sur le front, comme si l'arrière s'était en fait habitué à ce qui se passait sur le front, à ce qu'ils voyaient sur le front. D'autant plus que ce qui est montré au cinématographe, à l'époque, ce sont des images aseptisées du front. Tout ce que nous voyons aujourd'hui comme images, ce sont des images qui ont été faites dans des mini-Hollywood à l'arrière du front. Vous n'avez aucune offensive qui n'ait été véritablement filmée au moment de l'offensive elle-même. Pourquoi ? Bah parce que le matériel cinématographique n'est pas portable. Nous avons des appareils photo qui ont une taille incroyable, des caméras qui sont tout aussi incroyables en taille, mais on n'imagine pas. Ah bah attendez deux minutes avant que je fasse l'opération. Je voudrais avoir un peu de lumière là. Non bah non, l'allemand qui est en face ou le français qui est en face, il vous tire dessus. Donc c'est pas possible. Donc ce que nous voyons aujourd'hui comme image de la guerre 14-18, quand vous voyez une image d'offensive, soit c'est pris de très loin et on voit que pas grand chose, soit c'est pris de près et là vous pouvez douter du fait que ce soit fait sur le théâtre d'opération directement. C'est généralement plutôt fait à l'arrière par des soldats qui sont mobilisés pour ça.
Oh, well, I remember that terrible day when the blood stained the sand and the water, and how in that hell that they call Suvla Bay, we were butchered like lambs at the slaughter. Johnny Turkey was ready, he primed himself well, he showered us with bullets and he rained us with shells, and in 5 minutes flat he'd blown us all to hell. Nearly blew us right back to Australia. And the band played Waltzing Matilda.
Les Allemands sont vaincus pour différentes raisons, notamment par l'armée, par l'arrivée de l'armée américaine. Donc c'est 2 millions de soldats américains qui débarquent à partir de janvier 1918, qui vont avoir leur premier combat à Saint-Mihiel en mars 1918, et qui sont équipés par les Européens. Alors ils ont pris le casque des Anglais et le reste du matériel, eh bien il est principalement français. Ces Américains, d'ailleurs, ces troupes américaines, vivent un racisme des blancs américains qui refusent de combattre avec des noirs américains, qui refusent aussi d'être commandés par des noirs américains. Et ces noirs américains, ces afro-américains, comme on les appelle gentiment, ils vont combattre mélangés avec les français dans des régiments qui vont être composites. Ces noirs américains qui amène pour la première fois le jazz sur le continent européen, ce qu'on appelle le ragtime. Ces noirs américains vont se rendre compte que on peut avoir des blancs non racistes, et c'est ce qui fera la grande publicité de la France auprès des jazzmen américains et des afro-américains. Pensez seulement à Josephine Baker qui viendra dans les années 20 chanter et danser en France et qui restera en France. La guerre s'achève par des offensives. Nous avons bien sûr une offensive allemande, celle de Hindenburg, à partir de juillet-août 1918, qui s'achève par une deuxième bataille de la Marne, qui est un échec pour les Allemands. Mais nous avons aussi une armée dont on parle très peu dans les livres d'histoire, qui s'appelle l'armée d'Orient, qui est partie de Thessalonique en Grèce et qui fonce littéralement aux ordres de Franche d'Espéré vers Vienne, ce qui entraîne aussi la demande d'armistice de Vienne, puis de l'Italie, puis aussi de la Bulgarie, qui sera suivie de celle de l'Empire ottoman et qui laissera en fait les Allemands seuls en novembre 1918. Dans tous les cas, Ce qui a permis, en fait, que cette guerre dure si longtemps, certes, c'est le courage, l'abnégation, le sens de la camaraderie des soldats entre eux, mais c'est aussi et surtout parce que, à l'arrière, l'arrière a tenu. Et c'est de ça que nous allons parler la prochaine fois, c'est-à-dire la mobilisation de l'arrière et comment est-ce que, à l'arrière, on a vécu cette guerre 14-18. Et nous verrons qu'il y a de grandes différences entre ce qu'ont vécu les populations des forces de l'Entente, notamment à l'ouest, et ce qu'ont vécu les populations allemandes ou autrichiennes ou russes. Nous allons nous quitter sur une chanson qui est la chanson de Craon, qui a été chantée par les soldats français après l'offensive du Chemin des Dames et qui montre bien, ce manque d'espérance d'une partie, sinon d'une grande partie des soldats français après cette énième offensive et ce énième échec de 1917. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Un bon confinement ou déconfinement pour ceux qui sont repartis au travail. Au revoir, à demain.
Camarades, elle va mourir. J'ai une dernière volonté. Je m'appuie debout comme un homme. Après, allez-y, camarades. Fais la volonté. Adieu, la vie. Adieu l'amour, adieu toutes les femmes. J'ai bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est un crâne sur le plateau qu'on m'a laissé sa peau, car nous sommes tous condamnés. Nous sommes les sacrifiés.